Fernand Houry. Ça remonte à quand ?
Les années, début des années 70, stage à l'éducation nationale, à Massy à l'époque, donc la rencontre avec Fernand Houry. Enchaîne le stage d'été avec Jacques Pin à Saint-Vincent, deux années de suite.
C'était quand ça, tu dis ?
70-71, il me semble. Hein.
Ouais, oui, pardon. Ouais.
Voilà, c'est là que l'aventure a commencé. Et la rencontre avec Jacques Pin, c'est à l'école des sourds rue Saint-Jacques, où nous étions convoqués parallèlement par Fernand Houry pour assurer la sécurité d'un retour de stage dans lequel étaient attendus les amis de la Passade et Louraud.
Oui, tout à fait. Donc ça remonte à 71, tu dis, à peu près. Hein.
Ouais, 70.
Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis arrivé en 66 à Paris. Je ne vais pas le raconter parce que je l'ai écrit, donc je ne vais pas le dire très longuement. Je l'ai écrit, c'est dans des articles. Et c'est vrai que j'ai lu vers une pédagogie institutionnelle, contacté Fernand Houry, et été embarqué très vite dans l'écriture de chroniques de l'école caserne. Et donc, 71, effectivement... Je me dis, il faut absolument qu'on fasse un stage. J'ai rencontré Daniel David. Et donc, on postule tous les deux pour un stage qui se tenait à Saint-Vincent-de-Gelmoutier. Et je ne sais pas si tu te souviens, sans rentrer dans le détail, mais nous avons un peu affolé l'encadrement.
Ben, c'est-à-dire que bon, le travail dans le stage, c'était le travail, mais les alentours du stage, c'était aussi un espace ludique, que ce soit le moment où on faisait la vaisselle ou autre chose. On n'engendrait pas forcément la mélancolie.
Tout à fait. Au point que quand on est revenu, je ne sais pas si tu te souviens, c'est Fernand qui m'avait convoqué, qui nous avait convoqué, je ne me rappelle plus, je n'y étais tous les deux, pour nous dire, mais qu'est-ce qui s'est encore passé là-bas ? Qu'est-ce que vous avez été dire, faire ? On avait un peu affolé une partie d'encadrement.
Pourtant, je n'avais pas l'impression que c'était passé des choses transcendantes.
Non, c'est vrai. Non, rien que...
Mais peut-être que, quelque part, le fantasme était déjà en place.
Oui, et c'est vrai que c'était une rencontre entre nous, et qu'on avait une manière de raisonner de concert tout à fait étonnante quand même. Avec un succès à l'époque, dans le stage et auprès d'un certain nombre de personnes, absolument évident. Et alors, du coup, c'est l'année d'après.
L'humour n'était pas le moteur essentiel des stages.
L'humour n'était pas très présent dans la pédagogie institutionnelle à cette époque-là. Et c'est vrai qu'on avait accroché tous les deux à cette histoire de pédagogie institutionnelle. Qu'est-ce qui t'avait amené là-dedans, toi ?
Ben moi, c'est le stage où j'avais rencontré Fernand, et puis ça m'a appris à faire la classe, tout simplement, parce que personne d'autre m'avait appris.
Qu'est-ce que tu faisais comme classe, toi, à cette époque-là ?
Moi, je faisais des classes pratiques à l'époque.
Ouais. Où t'étais ?
À Orly. Et donc, personne ne m'avait appris à faire la classe, donc j'ai trouvé là matière à apprendre à travailler.
Et tu t'es servi tout de suite des...
Tout de suite, ah bah oui, tout de suite. Puisqu'à l'époque, on avait un stage en alternance, c'est-à-dire qu'on était deux semaines en stage, je crois, et après quatre semaines en classe. On était trois sur deux classes. Et on partait chacun notre tour en stage. Donc, ce qui était tout à fait intéressant, parce qu'il y avait une mise en place, puis après un retour et des réflexions, c'était justement qu'on pouvait faire donc, au stage. Donc, c'était une formule qui, pour moi, a été très, très profitable. Et c'est là que, bon, au travers des livres, j'ai appris mon métier.
C'était le stage à Auteuil ?
Non.
Ah non ?
Non, moi, c'était Massy-Palaiseau.
Massy-Palaiseau, ah oui, d'accord. Avec qui il était, Fernand ?
Il y avait Fernand, il y avait à la teinte, il y avait Madeleine Cheyère, je ne sais plus si son prénom était Madeleine, il y avait Max Mola. Donc c'était les formateurs étant essentiellement issus du mouvement Freinet.
Ah oui.
Beaucoup de formateurs étaient issus du mouvement Freinet.
Donc toujours, ça c'était...
Ça, c'était ben, 70, début des années 70.
Début des années 70.
Puisque moi, j'ai commencé en 69 à l'éducation nationale.
Voilà. Alors, on fait le stage, on se rencontre, là, on fait le stage. Et c'est alors en 72 qu'on a essayé de faire le deuxième et qu'ils nous ont refusé l'inscription. Oui. Je te rappelle qu'on avait reçu une lettre rayée en rouge ou commentée en rouge. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, tu t'en rappelles, toi, mais qu'on n'était pas les bienvenus et que donc on n'était pas inscrits.
On avait compris qu'il ne fallait pas y aller.
D'ailleurs, Fernand n'était pas au courant, parce que c'est pas lui qui avait décidé ça. C'était le petit groupe de ce stage, organisant ce stage, je me souviens bien. Alors, est-ce que c'est là, c'est à partir de là, je crois que ça nous a aidé finalement, c'est à partir de là que tous les deux, et avec Fernand d'ailleurs, on a décidé de faire des stages, nous. Oui. C'était donc en 72-73.
Ça, sur les dates, moi je suis pas très fort, donc... je me rappelle. Mais c'est facile de retrouver, puisque le premier stage qu'on a fait avec Fernand, c'était à l'éducation surveillée sur le plateau à Savigny.
C'était à Savigny, oui. Et je me souviens que ma première incursion à Savigny, j'avais rencontré Jacques Bourquin, donc ça doit se situer dans ces eaux-là ou après. C'était en 73. Jacques Bourquin m'a fait venir à Savigny, et après je suis allé à Émancé. À Émancé. Donc ça a dû être, c'était 73-74. Et donc, raconte un peu ce qui s'est passé. Tu te souviens, là, on a fait combien? Trois stages.
Oui, sans doute.
Il me semble qu'on a fait trois stages avec Fernand. Oui. Ça, j'ai souvenir. Oui. Et dans l'encadrement, il y avait toi et moi. Et puis, plus tard, il y a eu Christine, mais pas au début, tu me disais.
Non, pas l'éducation surveillée.
Pas l'éducation surveillée.
Non.
Donc, qui c'est qu'il y avait dans l'encadrement? Que nous deux?
Le premier, on était que tous les trois.
Tous les trois. Oui, Fernand, toi et moi.
Après, sont venus Claude.
Oui, bah ça c'est après.
Et après Arnaud, plus tard aussi.
Oui, parce qu'après les trois premiers avec Fernand, je sais, on a fait trois. Ouais. Après, il n'était plus là, lui.
Non.
Donc, effectivement, il y avait Claude, Arnaud, Christine après. C'est là qu'on a commencé à démarrer les réseaux. La Respi et tout, ça, donc, ça a démarré. Mais on était déjà proche de 80, là, il me semble, non?
Oui.
Hein? Je ne me souviens plus exactement des dates, il faudrait que je retrouve ça. Oh là là. Comment retrouver ça? Comment retrouver ça? Ah ben c'est pas compliqué, parce que si, c'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué. J'ai soutenu ma première thèse en 79. Ni Dieu ni maître, la pédagogie institutionnelle, là. Et je l'ai tiré au Savigny sur le plateau, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais étalé tout ça. Et donc quand j'ai tiré la thèse, les réseaux commençaient à fonctionner. Donc c'est-à-dire on avait commencé à monter la Respi, et donc on l'a démarré... C'est début des années 80 que le réseau a pris son développement. Tu t'en rappelles, toi, du démarrage du réseau?
Non? Non, pas plus que ça.
Quand on a trouvé le nom, c'était là? Matrice?
Oui, oui. Ah, ben oui, mais tu parles des réseaux.
Là, les réseaux, c'est dans les réseaux qu'on a trouvé Matrice?
Matrice, oui, je me souviens.
Tu te rappelles comment?
Ben écoute, il devait y avoir Claude et Arnaud.
Oui. Lysia, Edelstein et d'autres. On était 30 ou 40, je ne sais plus combien. Ouais. En assemblée générale, en réunion, là, et on cherchait un nom pour... L'idée était venue de monter une édition. Comment c'était venu? Tu te rappelles, toi?
Ah oui, oui, moi je me rappelle, c'est qu'on faisait des stages au Mureau, tu te souviens?
Oui, ah oui, tout à fait, à l'hôpital.
À l'hôpital, au centre de formation des infirmiers psychiatriques. Et on parlait donc d'éducation et psychothérapie institutionnelle qui n'était pas rééditée depuis 20 ans.
Voilà, c'est ça.
Et dans le stage...
Josh Kellyès.
Il y avait un stagiaire dont le frère avait monté une petite édition associative qui s'appelait Hiatus. Et donc, on l'a aidé financièrement à ressortir éducation et psychothérapie institutionnelle de Toscaliès.
Donc, le premier livre, c'était Hiatus.
Et lui, bon, bah, comme tout le monde, le problème majeur de l'édition, c'est la diffusion. Donc, il a eu des problèmes au niveau de la diffusion, ça s'est arrêté, et c'est là où, donc, nous, on a créé Matrice, en reprenant, donc, ce premier livre, et ça a été ça, le début en 84 de Matrice. C'est Florent, il faut que je dise de partout.
Donc, on édite un premier livre dans une édition qui s'appelle Hiatus. Je ne me rappelle plus du comment il s'appelait, le copain. Il y en avait un qui était dans les réseaux et l'autre qui était donc, qui avait monté cette édition. Alors, on sort le Toscaliès, éducation et psychothérapie institutionnelle.
Et derrière,
Sort, alors, comment ça s'est fait?
Humbert, pratique de l'institutionnel.
Ah oui, Humbert.
C'est qu'on a oublié.
Donc oui, Humbert, pratique institutionnelle, avec une préface à Arvano.
C'était Humbert le deuxième, tu te rappelles?
Il y a eu quasiment en même temps Humbert et puis il y a eu pratique de l'institutionnelle politique.
Ah oui.
Donc les trois entretiens, Jean...
Fait en partie,
Gattari,
Toscaliès.
Et Toscaliès.
Fait en partie à la Borde. On était voilà. Tous les trois, il y avait Christine, toi et moi. À la Borde.
Oui. Donc là, c'est le quasiment en même temps qu'ils ont été faits.
Donc ça, c'est 83-84. Ouais. Mais Miloud, non, Miloud, c'est 86. Non,
Miloud, c'est plus tard.
Ouais. Donc 83-84, et puis ensuite, effectivement, on a continué, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Ah bah si, j'ai monté la revue Traces de fer.
Traces de fer, oui.
On a sorti Traces de fer, qui était directement une émanation des réseaux. Il y a eu 4 numéros de cette revue, entre guillemets. Et tout ça a commencé à installer et le réseau et les éditions. Et donc, si on a sorti tout ça en 83-84, c'est là qu'on a dû décider du nom, Matrice, en réunion, groupe. Ouais. Tu te rappelles? Non.
Bon, là, on a, avant la sortie du premier livre, hein, puisqu'on a déposé les statuts en 84.
Mais pas avant la sortie d'Hiatus, avant la sortie du...
Ah non, après, oui. Après Hiatus, puisque Hiatus, oui. Il n'y avait rien à voir avec Matrice.
Juste après.
À l'origine, Hiatus. Quand on a sorti l'éducation et psychothérapie, c'est Hiatus qui l'a sorti. Nous, on était oui. Seulement... on avait aidé financièrement, mais on n'avait pas... C'était une structure qui nous...
Donc
qui
les statuts pas... datent de 84.
Oui, puisqu'on a déposé en 84 voilà. l'association.
Donc le démarrage de Matrice, 84. Le nom qu'on a choisi en groupe... En fait, il faut se rappeler que matrice, ça veut aussi dire matériel de transfert, institution et centralité. Donc, alors on a continué. Et c'est Fernand qui nous a demandé d'éditer Miloud.
Oui.
La dernière, j'étais mort. Mm-hmm. Je ne sais plus pourquoi, si, parce que Maspero...
C'est parce que Maspero, enfin, qui était devenu la découverte, oui. N'était plus intéressé par cette collection.
Ouais. Donc, il n'y avait plus d'accueil pour la pédagogie institutionnelle, plus de collection, voilà. Et c'est là qu'on a commencé la reprise et le développement de Matrice.
Et donc après, là, Fernand nous a demandé de reprendre petit à petit tous les titres de la pédagogie institutionnelle qui étaient à la découverte. Puisque la découverte, eux, n'était plus intéressée, donc ils nous ont redonné tous les droits. Mmh. Et c'est comme ça que, petit à petit, tous les livres sont revenus chez Matrice, et l'engagement pris par Matrice, c'était que ces livres soient toujours disponibles à la vente, et surtout dans la forme initiale où ils avaient été publiés, puisque les livres se renvoient les uns les autres, donc il faut que tout reste absolument en place, comme ça a été fait la première fois.
Tu te rappelles de ces discussions? Je ne me rappelle plus. C'était avec Fernand?
Oui, mais ça a été d'une simplicité biblique. Hein, oui. Je veux dire, bon, Fernand a écrit à la découverte, qui n'a posé aucun problème pour transférer... puisqu'à l'époque, ils avaient sorti la brique en 2 tomes. Je ne sais pas si tu te souviens.
Si, je me rappelle.
Et donc, nous, on l'a ressorti, comme il était à l'origine, en un seul volume.
Oui, parce qu'effectivement, les gens achetaient un des tomes et pas l'autre. Je me rappelle de la discussion avec Fernand, effectivement. Mais alors, il ne faut pas oublier qu'on faisait ça. Alors, Matrice, ça c'est important, je crois. Ce développement de Matrice que tu dis là, s'inscrivait dans l'ensemble des stages et des interventions qu'on faisait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait une intervention à l'hôpital des Mureaux, on avait démarré l'intervention en Belgique, à la maison de nos enfants. Il y avait différentes interventions dans l'éducation surveillée. Donc, on a eu...
Au niveau des éducateurs, au niveau des directeurs, à l'éducation surveillée. Oui. Il y a les interventions aussi avec la pénitentiaire.
Tout à fait.
À donc, Fleury.
Entre 80 et 90...
Et des interventions à l'éducation nationale aussi.
Oui, il y a eu un énorme développement d'activités qui nous a vu effectivement intervenir dans tous ces secteurs. Et d'ailleurs, être soutenu, je me souviens, et quasi financé... Et quasi financé par Jacques Solos et Vaucresson à un moment, qui a financé le réseau. Et donc on est devenu des piliers de Vaucresson. Le réseau était en quelque sorte une région de formation comme ça, transversale. J'avais écrit quelque part Donc on a continué, tout ça marchait jusqu'en 90-92 et après. Alors comment, tu te rappelles? C'est-à-dire comment? Ben si, les réseaux se sont arrêtés entre 90 et 2000. Mmh. Je ne sais plus pourquoi, on s'est retiré pour les laisser continuer.
Et ben oui, croître.
Et en fait...
Sans l'ombre.
Ça a duré...
Sans l'ombre du père.
Et c'est vrai qu'on s'est retiré de ces réseaux où on était quand même presque une centaine à un moment. Hein. Mmh. Et on faisait des regroupements dans le Midi, au Mureau, on avait été à Niane au Mureau, et puis en Belgique. Et c'était un truc très fort, et puis on s'est retiré tous les deux. Et en fait, ça a duré quelques années, mais ça n'a pas continué. Ceci dit, ça a laissé des empreintes, hein, puisque encore maintenant, donc 25 ans après, on retrouve des gens qui sont passés par nos réseaux à des postes clés, dans l'éducation nationale, dans la PJJ, dans la protection judiciaire de la jeunesse en Belgique, en Suisse, et c'est vrai que ça a marqué les imaginaires, hein, parce que hier à l'éducation nationale, tu vois, il y avait des gens, il y avait un chef d'établissement de 60 balais qui se rappelait encore de certaines rencontres, il était venu dans mes cours à Nanterre, et des réseaux, et tout un tas de trucs des années 80, tu vois. Donc ça les a quand même pas mal tiltés.
Bah, c'était un support au travail, hein, quand même. Il n'y a pas tellement de lieux comme ça où tu peux approfondir ce que tu fais, avoir une réflexion, une mise à distance et échanger avec d'autres. Ce n'est pas des structures habituelles dans la vie professionnelle. Hein. C'est jamais institutionnalisé par les employeurs.
Ouais. Non, mais ça je vois bien. Mais pourquoi on a fait ça nous? Pourquoi nous? T'as une idée? Qu'est-ce qu'on avait là-dedans? C'était la puissance.
Bah, ça a été la suite logique des stages.
L'attachement à Fernand?
Bah, il y a toujours ça, quoi. Puisque tout ça, quand même, c'est lui. Pour moi, c'est lui et la pédagogie nationale qui m'a appris à travailler. Hein, donc, c'est quand même quelque chose de central. Donc, il y a une dette quelque part. Mmh. Donc, pour moi, c'était pas un problème, au contraire, c'était quelque part logique, quoi. Faire en sorte que la pédagogie institutionnelle et les livres de la PI soient toujours disponibles, c'était quelque chose qui me paraissait aller de soi, compte tenu de ce que moi, ça m'avait apporté. Et puis encore aujourd'hui, je veux dire, pour des enseignants qui débutent, il n'y a pas grand-chose pour appuyer son travail d'une manière quand même très structurée, et avec des techniques qu'on fait leur preuve.
Tout à fait.
Moi, surtout dans les milieux difficiles, ouais. Où là, les gens sont encore plus démunis.
Et je me souviens, moi, donc, que je suis allé pour tester tout ça. Donc, j'ai passé 3 ans comme maître auxiliaire au collège technique de Cormeil-en-Parisy, que j'ai d'ailleurs écrit, pour tester effectivement ce que j'avais trouvé aussi dans cette pédagogie institutionnelle. Oui, mais alors donc, j'ai vu ce qui pouvait marcher, ce qui marchait. Mais pourquoi nous plus que d'autres? Parce que dans cette histoire, donc, on n'avait plus beaucoup de contact avec les groupes. On est resté en contact avec Fernand et quelques-uns, mais on n'a plus vraiment travaillé avec les groupes, alors qu'en fait, c'est nous qui refournissions, retirions les livres. Et comment ça se fait que tous ces groupes-là se sont pas mis dans les mêmes positions, à ton avis? Enfin, c'est pas une question métaphysique, hein, mais...
Mais, je sais pas, peut-être l'origine, c'est aussi le stage de Saint-Vincent. Parce qu'il y avait quand même, il faut pas oublier, il y avait un Humbert dans le stage.
Oui, c'est vrai.
Il y avait pas mal de gens. Et... quand même, ce stage, même si après, nous, on a été exclus, on a quand même gardé, avec tous les gens de ce stage, des liens.
Oui.
Ce stage était ouvert, parce que, déjà, ne serait-ce que la présence d'Humbert, Humbert, il n'était pas dans la droite ligne de l'API. Donc, ça a ouvert, et on s'est trouvé de fait dans une position transversale. Oui, bonjour Serge.
Oui, alors le stage de Saint-Vincent a été central pour toi.
Oui, et puis oui, parce que regarde, le premier livre qu'on a fait après, donc on est repris éducation et psychothérapie institutionnelle. C'est un livre d'Imbert, préfacé par Arduano. Déjà, hop, on est dans la transversalité. Mmh. Ensuite, bon.
Pour une praxis pédagogique.
Pour une praxis pédagogique de Francis Imbert, avec la préface d'Arduano. Mmh. Donc, déjà, là, on est dans une ouverture. Mmh. Bon, derrière vient le livre Pratique de l'institutionnalité politique, donc Uri, Gattari, Toscaliès. Et puis, ça a toujours été un peu ça, quoi. C'était à la fois les fondamentaux de la pédagogie institutionnelle et puis les gens qui sont quelque part dans la continuité de la pédagogie institutionnelle ou dans l'interrogation de la pédagogie institutionnelle, mais de manière positive. Mmh. Donc, et c'est toujours ce qui a été. Matrice a toujours été un lieu de transversal.
Oui. Hein?
Puisque, avec l'éclatement... Avec l'éclatement avec la disparition de Fernand, il y a eu donc l'éclatement en plusieurs groupes. Mmh. Et malheureusement, ces groupes avaient très peu de liens entre eux. Et ce qu'a installé, entre guillemets, un lien, c'était l'édition et les livres.
Oui. C'est vrai que la seule chose qui a fait lien après, bon, Fernand est mort en 98. Hein. Mmh. La seule chose qui a continué à faire lien, c'est Matrice.
C'était le lieu de la transversalité. Et il y a eu ces rencontres, ces journées, ouais, où tous les groupes venaient. Et c'était le seul lieu où ces groupes se rencontraient.
Oui, on a organisé donc une première rencontre à La Neuville, vers 92-93. Il y a eu ensuite... il y a eu une deuxième journée à La Neuville.
Et puis il y avait eu les 10 ans de Matrice aussi, qui avait été un lieu transversal,
oui,
à La Neuville.
À La Neuville.
Quand on avait fêté les 10 ans de Matrice,
oui,
il y avait aussi bien Arduano qu'Imbert, que les gens de la pédagogie institutionnelle au sens strict. Oui. Je veux dire. Donc ça a toujours été un peu la philosophie de Matrice.
Mireille Cifali, il y avait aussi, oui.
Voilà, donc ça a toujours été quand même l'axe, c'était ne pas se fermer et rester transversal.
Ouais.
Rester un lien, puisque c'était le lieu, je dirais, des fondamentaux, des livres fondamentaux. Mmh. C'est là qu'on les trouvait. Donc,
ouais.
Et toujours, c'était, je crois que c'est ça qui était important, c'est que, heureusement, on n'était dans aucun groupe. Et c'est ce qui a permis de rester, en restant à distance de tous les groupes, ça nous a permis quand même de jamais rentrer dans des rivalités que comme tout groupe qui s'installe, forcément l'autre groupe on sait bien comment fonctionnent les groupes, donc ça a quand même permis de garder quand même une fluidité quelque part et un échange des groupes, à la fois un échange des groupes entre eux et à la fois un échange avec des gens extérieurs. Oui, alors.
Oui, alors, c'est vrai que Matrice a permis de faire fonctionner cette transversalité entre les groupes et que nous avons donc, c'est vrai que nous avons organisé 4 rencontres finalement avec les 10 ans de Matrice. Il y a eu 4 rencontres en 15 ans, les dernières étant à Lille. Le regroupement de Lille, et puis ensuite on a fait encore. Je ne sais plus ce qu'on a fait.
Nanterre.
Ah bah oui, Nanterre. Le colloque de Nanterre, en 2008. Le colloque Fernand Houry à Nanterre, où il y avait quand même 350 personnes. Alors c'est vrai qu'on a commencé à poser la question de la suite de Matrice, à partir de ces dernières années, mais que ça n'a pas attiré de réponses enthousiastes. Comment t'expliques ça ?
Je sais pas pourquoi ça a fait peur. Moi, mon idée, c'était que Matrice devienne un des métiers des groupes. Ça veut dire que l'édition, c'était un métier. Et puis, les groupes auraient pu... il faut un peu de temps. Donc, tous les 5 ans, par exemple, Matrice changeait de groupe. Hein, c'est un autre, chaque groupe se sera occupé de Matrice à tour de rôle avec... Un groupe de pilotage dans lequel il y aurait eu des représentants de tous les groupes de l'API. Moi, je voyais ça comme ça, parce que justement, ça permettait de faire perdurer cette transversalité, Parce que c'est vrai que si un groupe, par exemple, prend seul Matrice, c'est quand même un pouvoir. Une maison d'édition, c'est un pouvoir. Donc, alors que là, si ça devenait un métier des groupes de l'API, ça permettait de maintenir d'abord un contact permanent entre les groupes autour de l'édition, et puis ça permettait que Matrice continue à être un lieu transversal. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors pourquoi ? Je ne sais pas.
Le CEPI avait réagi, puisque
le CEPI était ceux et les seuls, faut bien dire, oui, qui s'étaient positionnés. Et puis après, il y a eu le décès de
Michel
Exertier. Et bon, ça, c'est sûr que ça a été pour une épreuve et ils n'ont plus donné suite. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'ils puissent reprendre.
Oui, bah oui. Alors, résultat des courses, on est dans une phase maintenant, donc 2011. Nous avons contacté, après une rencontre accidentelle, on pourrait dire, enfin, à Montpellier, les éditions Champs Social. Toi et moi, nous sommes allés à Nîmes discuter avec Champs Social et Yannick Breton. Et donc, actuellement, nous sommes en train de basculer les éditions Matrice dans un espace Matrice qui sera dans les éditions, mais c'est vrai que ça sera plus pareil. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut essayer de maintenir, de tenir dans tout ça ?
Bah, faut déjà tenir que les fondamentaux de l'API, là, les livres, soient toujours disponibles. C'est quand même ça l'engagement fondamental. C'est que ces livres-là soient toujours disponibles en librairie, que les gens puissent les trouver et qu'il n'y ait pas d'interruption. Voilà. Pour moi, ça, c'est le point fondamental. Il faut que les livres de l'API soient toujours disponibles. Puisqu'on sait bien que si les livres disparaissent, ça a quand même un point très, très négatif. Parce que si plus personne peut avoir accès à ces livres, qu'est-ce qui restera ? Les groupes. Mais les groupes, ça ne touche pas l'ensemble de la population.
Non.
Et même pour les groupes, ça sera un handicap qu'il n'y ait plus les livres disponibles sur le marché. Parce que quand les groupes font un stage, quand même, à chaque fois, la référence, ce sont VPI, CCPI, Miloud, oui, et les autres. Donc,
les fondamentaux, comme tu dis.
Voilà.
C'est vrai que dans le pire des cas, si tout tombait à l'eau, ils peuvent encore faire ce qu'on faisait à un moment, faire filmer les livres et s'en faire tirer 30 ou 40, oui, chaque groupe. Oui.
Mais on l'a bien vu d'ailleurs avec le dernier livre de Lafitte, que l'éditeur voulait pilonner très peu de temps après sa parution. Comme ces livres, de toute façon, n'ont plus un chiffre de vente très important, pour une maison d'édition qui n'est pas, comme la nôtre, militante, forcément, il les retire du catalogue.
Oui, alors c'est ça le problème.
Voilà.
C'est ça qui nous occupe.
Ça. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut que ces livres restent disponibles et que Champs Social s'engage à ce que ces livres continuent à être disponibles.
Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais leur proposer une convention cet été dans laquelle il y aura ça. Maintenant, après, advienne que pourra. On s'est donc fixé jusqu'à décembre 2011. Donc on peut dire qu'officiellement, déjà, nous avons arrêté la distribution, là.
Elle va s'arrêter fin juillet, oui.
Fin juillet, la distribution des Matrices s'arrête. Champs Social prend la relève, on va voir de quelle façon, à partir de septembre-octobre. Et donc on se donne janvier 2012 pour clore définitivement les comptes et Matrice, de notre côté. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça dit, tout ça, après tout ce temps ?
Qu'est-ce que ça dit ? Quand même une tranche de vie. Tranche de vie. Il y a quand même un... Bon, mais finalement...
Tu regrettes pas ?
Non. Et puis, quand même, le sentiment du devoir accompli, quoi. Je crois qu'on a tenu notre parole vis-à-vis de Fernand. Et... Bon, bah, ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien.
Voilà. Oui, c'est bien, oui. C'est sûr, c'est capital, parce que on a vraiment maintenu les liens, y compris donc avec Jean Houry, avec la psychothérapie institutionnelle. Parce qu'on a aussi réussi à mettre plus en contact qu'avant les groupes de PI, de pédagogie institutionnelle et les groupes de psychothérapie institutionnelle, hein, puisqu'il y a eu les rencontres de la Borde depuis 3 ans qui ont démarré, suite à la rencontre de Lille. Et donc c'est vrai que Matrice a joué un rôle moteur, avec un certain succès. Rappelle-toi, le dernier colloque qu'on a fait à Blois il y a 2 ans, là, on a quand même vendu 4 000 € de bouquins dans la journée. Sur place, on y était tous les deux et ça a bien marché, quoi.
Ben, c'est ce qui a toujours permis qu'on puisse faire les livres et qu'on puisse publier des nouveaux livres. Voilà. Parce qu'il faut quand même, même si on a toujours fonctionné de manière complètement bénévole et militante, faut quand même rentrer de l'argent pour faire de nouveaux livres.
Ah oui, oui,
il y a quand même cette donnée.
Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mystère. Et donc là, on clôt avec effectivement cet héritage.